Mais pourquoi cette chanson pour amorcer la chronique économique, M. McSween?
Parce que, Paul, je danse sur mon tabouret. Non. Parce que c'est une des chansons qui fait partie du catalogue DMI qui a été acheté par Sony hier, en soirée. Donc, évidemment, on met la main pour 1,9 milliard sur le catalogue DMI, donc le restant de la part. On a en fait 90% maintenant d'acquisition dans DMI chez Sony. Mais pourquoi, Paul? Pourquoi est-ce qu'on achète la musique aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est du contenu. Et il y a un grand penseur de HEC Montréal de l'époque qui s'appelait Jacques Fortin me disait, Pierre-Yves, tu sais, l'histoire de la vie n'est pas dans les comptes pour enfants. Non. C'est dans les rapports annuels. Vous lisez un rapport annuel de compagnie et vous pouvez lire une histoire, ce qui se passe. Faut juste être attentif aux détails. Et là, Paul, ce matin, je suis allé voir dans les états financiers de Sony qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'on voit. Le secteur qui est payant, c'est Game and Network Services, donc les jeux. Après ça, c'est quoi? La musique. Après ça, Pictures, donc les films. Et finalement, c'est Home Entertainment and Sound, donc les systèmes de son maison. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Sony s'intéresse beaucoup plus aux services et aux contenus que votre radio réveille.
Là, il faut que les gens comprennent, quand tu parles d'un catalogue, là, c'est les titres de chansons comme on vient d'écrire et ça oui. donne les droits d'auteur. Là.
Et la production et tout ce qui vient. Donc, c'est la maison de production, la maison d'édition devient...
C'est ça.
C'est EMI. Donc, il y a plein d'artistes, Queen, Kanye West, Pink et Pharrell Williams, d'où le Happy. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les états financiers nous disent, dans le fond, pourquoi Sony fait ça. On s'en va chercher de la marge. On s'en va chercher... une aide du contenu pour vendre des services, pour vendre aux consommateurs de la marge. Parce que c'est très difficile maintenant de faire de la marge dans l'électronique ou dans les produits. Il y a beaucoup d'offres, les gens savent les prix, peuvent maintenant aller sur Internet. On change pas si souvent que ça et maintenant un système est pas dominant par rapport aux autres. Donc, on s'en va dans le service. Et quand on regarde les états financiers de Sony, Paul, ben c'est en billions de yens japonais. Donc, ça, c'est des millions de dollars canadiens. Juste pour donner une idée, là, 1 dollar canadien, c'est à peu près 87 yens japonais. Donc, juste convertir ça, c'est un avant-midi de plaisir.
Oui, pas mal. Bon, on a vu que Mme Latourelle, la jeune millionnaire, est en faillite. Et c'est l'occasion, justement, de parler faillite.
Oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, on annonce la faillite de la jeune millionnaire. Question d'une antithèse, mais on va en parler. Bon, c'est quoi la faillite? Bon, c'est un super mécanisme quand ça va pas bien. Là, les gens vont me dire, Pierre-Yves, comment se fait-il que tu fasses la promotion de la faillite? Mais parce que des fois, c'est comme une game de Nintendo. Faut savoir peser sur le petit bouton reset quand ta game est mal partie. C'est une protection contre les créanciers, premièrement. Quand vous déclarez faillite, vous faites affaire avec un syndic. Le syndic prend tout en main. Donc, les gens qui vous appellent chez vous pour vous menacer, c'est terminé. On stoppe l'hémorragie. Tu sais, c'est un peu comme un plombier qui ferme votre entrée d'eau. Ça arrête de couler, vous êtes en train d'éponger, puis ça arrête pas de rentrer, là, mais le plombier ferme la valve, mais le syndic, c'est comme le plombier, mais donc la première consultation est gratuite. Deuxième point, évidemment, on se libère de nos dettes libérables, donc nos cartes de crédit, les prêts auto, prêts hypothécaires, les dettes, mais on se libère pas, par exemple, de dettes comme des contraventions. Eh oui, Paul!
C'est vrai?
C'est vrai, les contraventions et les amendes, ça se libère pas d'une faillite parce qu'évidemment, le gouvernement veut toujours se faire payer. Même chose pour les pensions alimentaires, tu peux pas dire à ton ex, « Hey, moi là, tu sais-tu quoi, je vais faire faillite » ou « les dettes frauduleuses », tu sais, si tu fraudes quelqu'un, tu y dois encore. Et aussi, les dettes d'études, si c'est dans les 7 premières années après la fin de vos études, tu sais, sinon ce serait bien trop facile, tu sortes tes études, tu as 20 000 de dettes, tu déclares faillite, ça serait trop facile, donc il y a des restrictions. Première chose, pour rencontrer un syndic, évidemment, qui va vous dire peut-être que c'est pas la bonne solution. Peut-être faut faire une proposition de consommateur ou une consolidation de dette. Évidemment, après ça, on déclare faillite. On liquide les biens si vous en avez encore, mais il y a certains biens qui sont pas saisissables. Par exemple, 7 000 $ de biens qui vous servent à la vie. Comme par exemple, une spatule ou un meuble. Aussi, ce qui est nécessaire à l'exercice de votre profession. Tu sais, mettons que t'es charpentier menuisier, on va te laisser ton marteau. Si t'es comptable, on va te laisser ta calculatrice ou peut-être ton ordinateur. Évidemment, si t'es CPA, tu peux pas faire faillite, c'est dans ton code, là, fait que tu le feras pas. Les sommes d'argent reçues à titre de compensation pour des pertes liées à un préjudice physique, exemple la CSST. Les pensions alimentaires pour enfants, évidemment, là, on va pas saisir les pensions alimentaires, on n'est pas sans cœur. Les REER, ça dépend. Faites affaire avec votre syndic, il va vous expliquer. Il y a certaines conditions qui font en sorte que le REER n'est pas saisissable.
Mais quand on fait faillite, est-ce qu'on est marqué pour vrai?
On est marqué dans notre dossier de crédit, mais pour quelques années. Ça finit par disparaître, dépendant du moment. Là.
Okay.
Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir qu'on ne s'y bat pas de la faillite nécessairement automatiquement. Si vous avez ce qu'on appelle un revenu excédentaire, c'est-à-dire que le syndic va calculer vos revenus après la faillite et va dire, vous là, vous êtes un employé, par exemple, de la fonction publique, vous gagnez 50 000 par année, ben vous avez une capacité de rembourser en partie vos créanciers. Donc, pendant quelques mois, on va calculer ce dont vous avez besoin pour vivre et on va vous demander de faire un paiement excédentaire, donc payer vos créanciers en partie. Et c'est pour ça que dans l'article ce matin, on dit « Madame sera libérée de sa faillite si elle ne gagne pas plus de temps par mois » parce qu'évidemment, il y a un certain délai là-dessus, il y a un temps de libération. Mais c'est quand même quelque chose qui est important à comprendre.
Parfait.
Si vos actifs sont petits puis vos dettes sont élevées, parfois, ça vaut la peine de peser sur le petit bouton reset du Nintendo puis se dire, je vais me donner une deuxième chance à moi et à ma famille. Donc, c'est un passez-y bien. Et qui est le spécialiste, Paul? C'est le syndic. Pas le syndicat, mais le syndic.
Le syndic, oui. Merci, mon cher.
Salut.
Bye-bye, bonne journée. 7h23.